patron te raconte que t'es adroit et gentil. Sois sûr que t'es le nigaud qui fait marcher son bateau. Attends-moi, petit gosse.
Bienvenue à la complainte du travail.
Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. L'argent est au bas de l'échelle et le talent par en haut. C'est pourquoi personne en haut, pourtant la vue est plus belle. Attends-moi, petit gosse, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou.
Alors, bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Bienvenue à cette dernière émission de la saison de la complainte du travail. Notre dernier sujet qu'on a choisi d'aborder, c'est le harcèlement psychologique en milieu de travail. Alors, pour en parler aujourd'hui, on a trois invités. Manon Brunel, et je vais la laisser présenter un petit peu le sujet parce qu'aujourd'hui, enfin, je vais la laisser, je ne gâcherai pas son punch, et présenter nos invités aujourd'hui de la journée.
Bonjour à tout le monde. En fait, oui, Illusion Emploi avait invité Marie-Josée Magny du Comité d'action des non-syndiqués et Shirley...
C'est ça,
je ne m'en souviens plus de son nom de famille, Richard. Bon, Shirley Richard, pour venir nous donner une formation qui était ouverte au public aussi, là, sur la question du harcèlement psychologique. En fait, l'harcèlement psychologique, pour ceux qui ne sauraient pas, a fêté ses 5 ans le 1er juin 2004. Ce fut une lutte menée pendant plusieurs années par les groupes de pression pour obtenir l'inclusion des dispositions de la loi sur l'harcèlement psychologique. On s'en réjouit toujours, mais là, l'heure est un peu au bilan. Le constat n'est pas toujours réjouissant. C'est un peu pour ça qu'on voulait, nous, donner une formation là-dessus, puis se servir de l'expertise qu'a développée le CANO, parce qu'ils ont fait un bon travail terrain. Ils ont aussi monté des groupes de soutien. Ça les a alimentés beaucoup sur la question du phénomène, pouvoir nous dire un peu les irritants, les choses à améliorer. C'est dans ce contexte-là qu'on a fait notre formation d'aujourd'hui. Et je vais laisser la parole à ce moment-ci à Marie-Josée Magny ainsi que Shirley qui vont à tour de rôle réagir sur les questions qui leur seront posées par notre ami Sandy.
Alors, je vous dirais que pour les auditeurs et auditrices qui ne sont pas vraiment familières ou familiers avec le harcèlement psychologique en milieu de travail, ce serait peut-être bien de situer qu'est-ce que du harcèlement psychologique en milieu de travail.
Je ne veux pas y aller avec la définition légale parce que c'est complexe puis il faut l'expliquer. Du harcèlement psychologique au travail, c'est d'être victime. Être victime de harcèlement psychologique, c'est d'être victime de comportements, de gestes, de personnes qui travaillent avec nous, d'un supérieur ou même de clients de l'entreprise dans laquelle on travaille, qui nous affectent dans ce qu'on est, qui a des impacts sur notre santé physique qui peuvent venir jusqu'à des symptômes, sur notre santé psychologique qui peuvent venir jusqu'à des symptômes physiques. Donc, il n'y a pas de modèle parfait, il n'y a pas de modèle idéal, il n'y a pas de vrai modèle. On ne peut pas dire, bon, telle situation, c'est clairement du harcèlement en la définissant. Il faut vraiment aller dans le cas par cas puis analyser chaque situation dont les personnes vont nous parler pour dire, oui, il y a apparence de harcèlement ou il n'y en a pas. Donc, c'est un ensemble de facteurs de gestes, mais il y a aussi l'impact sur les personnes qui est très important dans la définition du harcèlement qui fait en sorte qu'on peut dire si oui ou non il y a du harcèlement.
Et je trouve ça intéressant parce que tu as clairement mentionné que ce n'est pas seulement un employeur envers un employé, hein, que ça peut être plusieurs relations de travail là, dans un même milieu. Là.
Ça peut être les clients, ça peut être les fournisseurs, le livreur qui vient livrer la papeterie, qui est déplaisant et désagréable. Ça peut être un client qui ne cesse pas de téléphoner pour harceler. Puis je pense que Manon pourrait aussi là, faire un petit complément là-dessus.
Bien, juste rappeler par exemple que même si c'est le fruit d'un collègue, d'un client, d'une autre personne, c'est l'employeur qui a l'obligation de faire en sorte qu'il n'y ait pas de harcèlement sur le lieu de travail. Alors, la personne à qui on doit en parler ou la personne qui va être pris dans le processus de la plainte, c'est l'employeur. Ce n'est pas nécessairement le harceleur. Il faut faire une nuance là-dessus. Là.
La personne qui est considérée comme harceleur, ça devient l'employeur, même si ce n'est pas lui qui a causé les gestes. Ce n'est pas dans cette manière-là qu'il faut comprendre.
Il devient responsable légalement des comportements harcelants qui se tiennent dans son entreprise.
Excellent.
Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Il peut être accusé, si on peut dire, là, il va avoir une plainte de déposer contre lui de harcèlement psychologique au travail, parce que ça s'est passé dans son entreprise. Et là, à ce moment-là, il y a des personnes mises en cause qui, elles, sont les harceleurs. Donc, si c'est pas l'employeur qui nous harcèle, il y a l'entreprise qui va être à qui on dépose une plainte et on met en cause certaines personnes, le collègue de travail, le livreur, le client, notre superviseur immédiat, qui va être mis en cause dans la plainte, mais c'est l'employeur qui est responsable de ces comportements-là et c'est lui qui doit voir à les faire cesser. Donc, à intervenir auprès la personne qui nous harcèle et dire « ce comportement-là est inacceptable chez nous, je ne le tolérerai plus » et de prendre des mesures pour s'assurer que ça cesse.
Et c'est quoi les impacts qu'on voit le plus fréquemment chez les victimes d'harcèlement psychologique en milieu de travail?
Bien, en fait, il peut
peut en avoir plusieurs. Là. Au CANU, nous, on a un groupe de soutien pour les gens qui ont vécu du harcèlement. Puis, en discutant avec ces personnes-là, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup un impact au niveau de l'estime de soi qui est très diminué. Il y a aussi des symptômes de choc post-traumatique qui peuvent entrer en ligne de compte. On parle de perte de mémoire à plus ou moins court terme, par exemple. Ensuite de ça, il y a beaucoup de stress, beaucoup de méfiance. Les gens ont de la difficulté à faire confiance aussi, autant aux gens qui veulent les aider, aux intervenants, qu'à leurs amis, aux membres de leur famille qui veulent peut-être leur apporter un soutien. Fait que je pense que c'est pas mal le principal. Là, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres choses. C'est pas une liste finale. Là. Il peut y avoir beaucoup d'autres choses qui vont se rajouter, mais c'est quand même ce qu'on voit le plus souvent.
Et ça peut toucher autant le physique, le psychologique de la personne. Il peut avoir des impacts. Si je me trompe pas, vous pouvez me corriger. Le harcèlement sexuel est inclus dans le harcèlement psychologique comme il travaille aussi.
Oui.
Okay. Intéressant pour les gens. Alors, une personne qui, aujourd'hui, en nous écoutant à la radio, voit bien qu'elle a des éléments dans son milieu de travail qui peuvent s'associer à du harcèlement psychologique, qu'est-ce qu'elle doit faire?
Déposer une plainte, se renseigner peut-être dans un premier temps, se renseigner. Parce que des fois, on est victime, on se croit victime de quelque chose, puis on ne sait pas si c'en est vraiment. Bon, d'avoir peut-être des avis, conseils, puis dans un premier temps, peut-être appeler dans des groupes de défense comme nous, comme le CANU. Ça pourrait être un premier élément. On dit toujours, nous autres, dès qu'on a une personne qui nous téléphone, s'il vous plaît, prenez, notez, annotez ce qui s'est dit, tout. Un geste peut sembler banal, une parole peut sembler banale, mais quand c'est sur une longue période et que c'est répétitif, c'est là qu'on voit le phénomène du harcèlement plus dans son ensemble. Alors oui, d'en parler, puis là aussi de faire attention à qui on en parle. On ne veut pas nécessairement que ça soit ébruité et que ce soit, je ne dirais pas des espions, mais que cette information-là se ramène à des personnes qui ne sauraient pas en faire un bon usage. Aussi déposer une plainte. Il faut se rappeler qu'il y a toujours des délais au niveau de la loi sur les normes du travail, comme dans tout autre
lieu. Et c'est quoi le délai?
Dans ce cas-ci, on parle de 90 jours du dernier événement.
C'est ça. Il faut faire attention aussi parce que parfois, on banalise le premier événement. Toutes les victimes avec qui on a travaillé dans le cadre de notre recherche action, le premier événement qu'ils ont pu associer au début du harcèlement, ils ont senti un malaise. Ils ont oublié de noter, ils s'en rappellent vaguement. Mais c'est souvent là qu'ils ont ouvert la porte. Ah, il n'est pas de bonne humeur à matin, il s'est chicané avec sa blonde, il a du mal à dormir, il y a un nouveau bébé à la maison. Et tranquillement, sournoisement, à partir de ce premier, on a comme toléré un premier, d'aller vérifier parfois. Tu n'as pas été fin avec moi ce matin, je n'ai pas aimé ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Tu sais, je ne veux pas savoir ce qui s'est passé, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou est-ce que j'ai fait quelque chose? Ou de tout de suite faire sentir que. Regarde, t'as pas été fin, fais attention. Ça peut aussi changer la donne, ça peut désamorcer tout de suite la situation de harcèlement. Parce que toutes les personnes qu'on a rencontrées dans le cadre de la recherche nous l'ont dit, le premier événement, j'ai senti un malaise, mais je l'associais à quelque chose qui n'avait rien à voir au travail. Oh, il était marabout ce matin, il a mal dormi, si je connais que sa blonde, les enfants n'ont pas fait une nuit. Donc, à autre chose d'extérieur, mais ça a quand même ouvert la porte. Oh, elle l'endure quand je suis marabout, ou lui, ça ne le dérange pas, fait que ça continue. Ça poursuit le phénomène.
Lors de votre recherche, est-ce que vous savez, avez-vous déjà identifié en moyenne, ça prend combien de temps pour que les gens se disent « j'en ai assez de vivre du harcèlement dans mon milieu de travail » ?
Aucune situation n'est pareille.
Okay.
Le niveau de tolérance des personnes est très différent. Des personnes qui vont avoir eu des problématiques plus jeunes ou qui vont avoir vécu plus de harcèlement ou ont été plus isolées vont peut-être tolérer moins longtemps ou plus longtemps parce qu'elles seront toujours positionnées comme « je serai le bouc émissaire de tout le monde toute ma vie ». D'autres personnes avec un caractère plus fort vont mettre fin dès la première situation, dès le premier malaise, vont dire « Hey, t'as pas d'affaire à me parler de même, là, que ça aille bien ou mal dans ta vie. » Donc, on peut pas dire « il y en a, ça va être un mois, il y en a, ça va être 6 mois. » On a vu des personnes qui ont enduré 3 mois, mais on en a vu d'autres qui ont enduré 6 ans avant de dénoncer ou même d'en parler à l'intérieur. Là. Même avant, il y en a qui étaient victimes de harcèlement, même avant l'entrée en vigueur de la loi. On n'a pas demandé ça pour le fun, c'est parce que ça existait. Là.
Et d'ailleurs, la loi date de 2004, si je ne me trompe pas. Et ça serait intéressant peut-être pour les gens de voir c'est quoi l'ampleur du phénomène. Depuis 2004, depuis l'entrée en vigueur de la loi, il y a eu combien de plaintes qui ont été déposées à la Commission des normes du travail?
10 000,
le chiffre officiel, c'est 10 000 plaintes qui ont été déposées. Là-dessus, on ne sait pas, ça ne veut pas dire qu'elles ont été toutes recevables, mais il y a eu quand même 10 000 plaintes de déposées. Et ça, c'est ceux qui se sont rendus jusqu'à la plainte. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour tout phénomène, il y a toujours des gens qui, par crainte ou par peur, n'iront pas jusqu'à la fin du processus et encore moins juste déposer la plainte.
Ça, c'est quand ils sont dans les délais aussi, parce qu'on a parlé d'un 90 jours qui était là. Fait qu'il y a peut-être des personnes que ça faisait plus que 90 jours qui avaient eu la dernière manifestation puis qui n'ont pas pu avoir de recours pour ça.
Pour différentes raisons. En raison, parfois, là, très souvent, là, le délai est expiré en raison de problèmes de santé qui ont fait en sorte qu'on ne savait pas ce qu'on vivait. Puis là, bon, tout d'un coup, on l'apprend, mais là, ça fait 6 mois qu'on est sorti du milieu de travail ou quoi que ce soit. Le délai est expiré, puis même si on essaie de dire qu'on avait des motifs raisonnables, c'est vraiment très long. À 2 jours après, on peut peut-être, là, mais quelques mois, c'est fini. On oublie ça, la plainte n'est pas recevable. Même si elle est fondée, elle ne sera pas recevable, donc il n'y a rien qui va se passer. Puis il y a toutes les personnes aussi qui ne déposent pas de plainte, de peur de perdre leur emploi, de peur de se faire juger par les autres ou tout simplement de s'embarquer dans un processus beaucoup trop long et qui, parfois, nie notre santé psychologique et nos besoins très humains de reconnaissance.
On va poursuivre sur le même sujet. Donc, on rappelle aux auditeurs et auditrices qui viennent de joindre à nous qu'on parle aujourd'hui du harcèlement psychologique en milieu de travail. Alors, on va aller à une légère pause musicale et on revient tout de suite après. Le temps passe vite. Alors, je vous laisse avec Paul Carniello et j'espère que vous allez apprécier.
Pouvoir s'arrêter, pouvoir s'arrêter, plus tu pieds les arrêtes. D'un main à l'autre, dans quelle poche as-tu marché? As-tu marché? Qui est cet inconnu, pauvre et parvenu, léger de ta présence, lourd de ton absence? Toi dans ta bulle, pourquoi es-tu là? T'en as ou t'en as pas?
C'est à Félix, 95,5 FM, la radio communautaire de l'esprit.
Alors, re-bienvenue à tous et à tous. Alors, je vous rappelle qu'on parle du harcèlement psychologique en milieu de travail. Alors, ma prochaine question est celle-ci. Comment ça se passe quand les gens portent plainte? On a vu que si on est victime d'harcèlement psychologique, on doit aller à la commission des normes du travail porter plainte. Mais comment ça se passe rendu là?
Bien, en fait, une fois que la plainte est déposée, ils vont évaluer si notre plainte elle est recevable. Dans ce temps-là, c'est qu'elle doit répondre à 4 critères. Le premier, c'est est-ce que la personne est considérée comme un salarié, selon la définition de la loi sur les normes du travail? Est-ce que l'entreprise pour laquelle elle travaille est de juridiction provinciale, parce que la loi sur les normes du travail, elle s'applique au Québec? Ensuite, est-ce que la personne a déposé sa plainte dans les 90 jours qui suivent la dernière manifestation, donc dans les délais? Et finalement, est-ce que la personne, elle est non syndiquée? Parce que les gens qui sont syndiqués doivent se référer, en fait, directement à leur syndicat. Donc, une fois que la personne a répondu à ces 4 critères-là, On va, dans la majorité des cas, on va référer tout de suite les personnes à un médiateur qui va, en fait, leur proposer ses services pour une rencontre de médiation. Cette rencontre-là devrait normalement permettre à ce que les gens s'assoient ensemble, c'est-à-dire l'employeur et l'employé qui a déposé une plainte, pour en arriver à une entente à l'amiable, si on veut, donc à une entente hors cours. On essaie comme ça de peut-être raccourcir un peu les délais ou en tout cas la judiciarisation de la plainte aussi en même temps.
Et c'est quoi les enjeux qui entourent la médiation, autant pour la victime que pour l'employeur? C'est quoi les avantages pour la victime et les avantages pour l'employeur? Ou les désavantages, ce sera à vous de les nommer.
Les avantages pour la victime, ben, c'est de réduire les délais peut-être, d'en arriver à quelque chose plus rapidement que d'attendre d'avoir fait tout le processus. J'ai beaucoup de difficultés à trouver des avantages pour le salarié à la médiation. Et les inconvénients de la médiation pour le salarié sont tous les avantages qu'en retire son employeur. Soit donc d'avoir accès à des détails de la plainte, ce qu'il n'a pas avant la médiation, et que s'il n'y avait pas de médiation, il n'aurait pas avant la fin de l'enquête et la référence de son dossier devant la commission des relations de travail. Donc, il peut passer beaucoup plus de temps à préparer son dossier de preuve pour démolir la plainte du salarié devant la commission des relations de travail.
Et juste une question, quand on est en médiation, est-ce que c'est l'employé versus l'employeur? Au fond, c'est l'employeur qui doit ramener les éléments de la preuve à son avocat si jamais ils vont en cours?
Bien, la plupart du temps, il n'y a pas besoin de les ramener à son avocat l'accompagne.
OK. Les avocats ont le droit d'être présents en médiation.
Oui.
Les avocats de l'employeur, mais pas l'employé n'a pas d'avocat avec lui. Pas commis d'office, en tout cas. Il n'y en a pas un par la commission des normes. Il peut en prendre un, le payer, mais il n'y en aura pas un qui va lui être commis d'office par la commission des normes.
S'il y a les moyens d'en avoir un, il peut s'en payer.
Exactement, mais la majorité des personnes n'ont pas les moyens de se payer un avocat. Donc, ils se retrouvent souvent seuls face à la médiation. Les groupes qui connaissent, les personnes qui connaissent les groupes de soutien vont demander souvent l'accompagnement de ces personnes-là ou du moins d'être référés vers des personnes qui pourraient les accompagner ou de les préparer à la médiation s'ils ne font pas d'accompagnement, en leur expliquant comment ça marche. Ils sont aussi... le fait que la commission des normes ne prépare pas la personne plaignante à la médiation joue aussi un rôle important dans les avantages pour l'employeur parce que on ne sait pas quoi demander, on ne sait pas comment ça va se passer, on est très nerveux, je le disais tantôt. On peut se retrouver devant son harceleur aussi. C'est devant quelqu'un aussi qui a un pouvoir économique sur nous. Hein. C'est lui qui signe notre chèque de paie, qui fait qu'on va peut-être réussir à mettre à manger dans le frigo en fin de semaine ou pas. Donc, on est intimidé beaucoup plus facilement. Puis, il faut se rappeler, quand on a parlé des impacts sur les victimes tout à l'heure, hein, une baisse de l'estime de soi, donc difficulté à s'affirmer. Hein, on ne croit plus en soi. La difficulté à s'affirmer. Des syndromes de choc post-traumatique. Donc, flashback, en se retrouvant parfois devant un employeur qui est associé au milieu, qui nous a blessés. J'ai vu quelquefois dans des médiations, lors d'accompagnement, des victimes éclatant en sanglots pendant la rencontre de médiation. Et c'est au salarié de faire état des faits qui l'ont amené à déposer sa plainte. Et à ce niveau-là, l'employeur n'a pas à se défendre. On n'est pas devant un commissaire, là. Il veut savoir ce qui s'est passé pour savoir ce que tu vas demander puis savoir s'il va te l'offrir, ce que tu lui demandes. Donc, c'est très rare qu'il va dire oui, mais il y avait telle mesure. Ça va être qu'il prend des notes, il veut étayer son dossier pour pouvoir aller plus loin si ça doit se rendre plus loin. Donc, c'est un peu... c'est très inégal. Pas un peu, mais très inégal. Et ça fragilise encore plus les personnes. Il y a des personnes qui vont quitter après la médiation, qui vont laisser tomber leur plainte parce qu'elles ne veulent pas aller plus loin dans le processus.
Et comme à ce stade-ci, les gens ne savent pas encore si leur plainte est fondée ou pas, ils n'ont pas de pouvoir de force. Ils ne savent pas s'ils décident d'aller plus loin et de judiciariser le tout, s'ils ont une chance de gagner. Fait que souvent, ils vont accepter ce qui va se passer là. S'il y a une entente, ce qu'ils vont leur demander, ils vont même baisser leur demande pour arriver à une entente parce qu'ils préfèrent ça à risquer de tout perdre, ne sachant pas si la plainte est fondée ou pas. En fait, nous, ce qu'on dit, c'est la médiation, c'est une bonne chose en soi. Puis c'est pas qu'on demande le rejet de la médiation, mais à tout le moins, peut-être que l'enquête a lieu avant la médiation, serait de un, et que de deux, lors de la médiation, il y a un avocat qui accompagne la personne qui a déposé une plainte pour qu'il y ait un rapport de force qui soit équitable, parce que c'est pas le cas présentement. La personne, on le sait, elle est fragilisée, là. C'est pas facile pour elle d'aller raconter, de se livrer, de revivre les événements et de pas avoir personne pour la conseiller. Parce que oui, on peut accompagner ou la personne peut être accompagnée. Malheureusement, on n'a pas le droit de parole. Et nous autres, on aurait un recul parce qu'on n'est pas pris émotivement dans le phénomène, mais la personne, elle est prise émotivement dans le phénomène. Si elle avait un avocat, lui, il serait extérieur elle aurait quand même un meilleur pouvoir de force à ce moment-là.
Puis une meilleure préparation aussi, il y aurait pour beaucoup plus de bons conseils pour préparer tant sa requête que son résumé des faits. Parce qu'il faut se rappeler que la médiation, c'est important de ne pas aller dans la perception ni dans l'interprétation. Il faut y aller sur des faits très précis. Et nous, les victimes qu'on a rencontrées chez nous, ont un grand besoin de parler de tout et de leur perception. Il faut travailler beaucoup, énormément à leur rappeler, non, non, on ne va pas là-dedans, moi, je te comprends. Okay? Quand tu es toute seule avec moi dans le bureau, ça va. Quand on sera en caucus, tu pourras peut-être élaborer plus, mais devant ton employeur en médiation, résume-toi au fait, oui, mais non. Il ne faut pas, ça va te nuire. Il va aller chercher, en plus, il va aller chercher tes arguments que tu vas probablement sortir en preuve si tu te rends devant le commissaire, puis il va déjà pouvoir les étayer. Donc, c'est de se résumer beaucoup, beaucoup, beaucoup aux faits.
Aux faits. Et moi, j'ai une question. Parce que moi, ce que je me pose comme question, c'est qu'est-ce que la personne qui vit du harcèlement psychologique en milieu de travail, on peut se douter que, surtout si son employeur faisait partie des personnes harcelantes, n'a pas nécessairement envie de réintégrer son milieu de travail. Alors, qu'est-ce qu'elle peut demander en médiation? Qu'est-ce que les gens veulent aller chercher en médiation? La simple reconnaissance du phénomène qu'ils ont vécu, est-ce que ça peut aller au-delà de ça, n'est-ce pas?
C'est sûr qu'au niveau de la reconnaissance de ce que les gens ont vécu, c'est quelque chose qui est très important pour les personnes, en tout cas, que nous, on a rencontrées. C'est quelque chose qui est très important. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on va chercher en médiation. En médiation, on va chercher du salaire perdu. Donc, si la personne est en arrêt de travail depuis un certain temps puis qu'elle n'a pas eu d'autres indemnités ou d'autres compensations à ce niveau-là, on peut aller chercher le salaire perdu. On peut aussi aller chercher des remboursements de frais qui sont liés justement à cette fin d'emploi-là. Donc, des frais de recherche d'emploi, que ce soit l'impression des CV ou encore des frais de transport pour aller rencontrer des employeurs. Les frais aussi de médicaments, parce qu'on sait que quand on vit du harcèlement psychologique, des fois, on peut avoir besoin de rencontrer des professionnels de la santé qui peuvent nous prescrire une certaine médication. Donc, le remboursement de ces frais de médicaments-là, frais de déplacement, encore une fois. Sinon, il y en a qui peuvent essayer d'aller chercher des dommages moraux aussi à l'étape de la médiation, mais c'est un peu difficile parce que pour l'employeur, des fois, ça équivaut à un aveu de culpabilité à quelque part, puis ça, on est un peu chatouilleux là-dessus.
Ils ne sont pas nécessairement frais à faire ça.
Non, c'est ça.
C'est intéressant, je trouve ça bien parce que quelqu'un qui nous entend en ce moment peut peut-être identifier, bien oui, effectivement, moi, je suis en arrêt de travail, c'est tant mieux pour lui s'il est encore dans les délais prescrits. Donc, on rappelle 90 jours, ça, c'est très important parce que sinon, au-delà de ça, est-ce que la personne... pose la question naïvement, là. Est-ce qu'elle peut avoir, si jamais son délai à la Commission des normes du travail est passé, est-ce qu'elle a un autre recours ailleurs dans une autre loi?
Oui, ça se complique, c'est ça.
Ça peut
aussi
être assez compliqué. Okay. De s'informer soit à un avocat, soit à un groupe vraiment spécialisé, parce que ça serait, si on embarque dans ces détails-là, là, on en a pour quelques capsules.
Okay. On ne fera pas ça dans l'émission d'aujourd'hui, mais juste préciser qu'effectivement, à part la loi sur les normes du travail qui prévoit un mécanisme et des modalités, il y a quand même possibilité de déposer une plainte au niveau de la charte. Un harcèlement et une discrimination. On peut aussi déposer une plainte... à la CSST,
une
demande d'indemnisation, c'est ça. Mais là, ce serait trop long à tout dire ça aujourd'hui aux auditeurs. On préfère plutôt vous informer que ça existe et appelez-nous au besoin pour qu'on clarifie le tout.
Et tout à l'heure, avis à tous les auditeurs et auditrices, là, on vous rappellera nos coordonnées, il n'y a pas de problème. J'aimerais ça comme dernier point qu'on aborde, mais on a encore du temps, là, on n'est pas si pressé que ça, qu'on aborde vos revendications. Je sais que le Canot a fait un gros travail là-dessus. Alors, vous avez analysé la loi avec les gens avec qui vous avez travaillé, si je ne me trompe pas, majoritairement des victimes?
Majoritairement des victimes ou des proches de victimes.
Alors, qu'est-ce qui est ressorti de vos travaux?
Que la définition permet encore... Bien, la définition en tant que telle pourrait aller, mais c'est la question de la lésion. Dans le libellé de la loi, c'est les comportements portent atteinte. Donc, pour porter atteinte, il faut qu'il y ait une lésion. C'est un élément très important quand il n'y a pas de facteur reconnu par la charte dans le harcèlement. On n'a pas vu beaucoup, dans le peu de jugements qui sont de décisions qui ont été rendues par la Commission des relations de travail, il y en a très peu que la travailleuse ou le travailleur n'a pas dû faire la preuve d'une lésion psychologique et d'un effet continu. Ça peut aller jusqu'à des détails très intimes de la vie privée qui ont été transformés, qu'on doit être obligé de livrer devant publiquement, finalement, pour faire reconnaître le harcèlement. Nous, on aimerait que ce soit enlevé. Il y a une notion de personne raisonnable. Serait-elle affectée? Qui puisse nuire à la santé psychologique ou qui pourrait porter atteinte à la personne, parce que là, de cette façon-là, on pourrait travailler en prévention beaucoup plus. Là, actuellement, on doit attendre d'avoir une lésion. Donc, si on change quelques mots déjà en ce sens-là, on va pouvoir axer beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la prévention. Donc, on va pouvoir signaler plus rapidement qu'il y a une plainte puis l'avoir retenue. On a aussi, pour l'instant, pour agir rapidement, une campagne, une vaste campagne publicitaire dans le rôle de la Commission des normes. Elle a un rôle de surveillance d'application, mais elle a aussi un rôle d'information des populations. Qu'elle le joue, ce rôle-là, sur la question du harcèlement psychologique par une vaste campagne publicitaire qui dénonce que ce phénomène-là, c'est inacceptable, mais qui tenterait aussi de faire tomber les préjugés dont sont victimes les personnes qui déposent des plaintes pour harcèlement psychologique au travail. Pour l'instant, pour nous, c'est les deux plus importantes. On en a, je pense, 24 autres que je n'ai pas toutes en mémoire comme ça. Charlie peut peut-être m'aider.
On sait qu'on veut aussi demander à la commission d'outiller les personnes, de fournir des outils. Quand on parlait tantôt de la médiation, il y aurait peut-être lieu d'avoir une pochette lorsqu'il y a une médiation pour leur dire comment ça doit se faire, qu'est-ce qui peut être demandé, parce que là, les personnes n'ont aucune idée de ce qu'ils peuvent demander et ils doivent, lors de la médiation, savoir déjà ce qu'ils vont demander. Il faudrait qu'ils sachent ce qu'ils peuvent demander et ils ne savent pas. Il n'y a personne qui donne vraiment ces informations-là. Oui, chez nous, si vous appelez, on va vous aider, mais il y a des gens qui ne passent pas par les groupes de pression, qui ne nous connaissent pas. Ce serait important, ça. Il y a beaucoup la notion aussi, on disait tantôt, le fardeau de la preuve.
Oui.
Nous, là, on trouve irritant que le fardeau de la preuve, ce soit à l'employé. On souhaiterait davantage que le fardeau de la preuve soit à l'employeur. Il y a des éléments, là, quand on vous dit ça comme ça, ça paraît anodin. Il faut comprendre que nous, sur le terrain, on a vu qu'est-ce que ça l'a donné. On est à même de voir les irritants pour les personnes et même pour les entreprises, parce qu'il y a des coûts énormes. Là, le harcèlement, là, quand il y en a, là, il y a des coûts énormes, autant pour
les congés de maladie, l'absentéisme au travail, des choses comme ça.
De toute façon, c'est un phénomène, au-delà des sous, de l'économique, intolérable. Il n'y a rien qui permet ou qui justifie ces pratiques-là. Il faut y faire cesser.
Et est-ce qu'il y a des pénalités qui sont accordées aux employeurs fautifs?
Non,
pas très. À part du versement de salaire perdu, parfois des dommages moraux.
Et
mais
c'est
les dommages
un dû,
moraux,
là, c'est pas.
C'est du dû. À part le salaire perdu, c'est parce qu'il y a eu congédiement, hein, on s'entend. Là. Si on est en congé de maladie, on ne peut pas réclamer du salaire perdu parce qu'on a une indemnité de remplacement de revenus. Des dommages moraux, quand on en voit, c'est vraiment dans des cas extrêmes. C'est des sommes minimes. Des sommes minimes pour des situations invivables. Donc, il faut travailler beaucoup aussi. On veut que la loi soit resserrée, mais on veut surtout qu'il y ait beaucoup de travail en prévention et que la loi permette de faire de la prévention. Mais on a des moyens de prévention. On peut avoir des moyens de prévention légale, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que aussi nous, comme travailleuses, travailleurs, qu'on est dans un milieu où on est témoin de comportements harcelants ou de comportements dégradants. Il faut le dire.
Il faut le dire, il faut le dénoncer.
Il faut le dénoncer, dire « Hey, boss, j'ai vu ça » ou « Hey, toi, est-ce que tu as dit à Marie, c'est pas correct. »
On n'accepte pas
ça. On n'acceptera pas que tu te comportes comme ça envers un autre de nos collègues. Et souvent, on disait en début, hein, si on avait mis fin au malaise tout de suite, nous, comme personne, quand on l'a eu, bien, si nos collègues aussi mettaient fin au malaise tout de suite, il y a beaucoup de situations qui se rendraient jamais devant la commission des normes parce qu'elles seraient désamorcées dès le départ.
Parce qu'une personne harcelante qui n'est pas soutenue dans son milieu n'aura pas tendance à continuer. Elle ne pourra pas, ça ne sera pas accepté. Et tout à l'heure, Marie-Josée, il y a quelque chose que tu as dit, je trouve ça intéressant de le mettre conjoncturellement. Tu disais on voudrait une vaste campagne. Bien, si je ne me trompe pas, cette année, ça fait 5 ans que la loi sur le harcèlement psychologique en milieu de travail est inclue dans la loi sur les normes du travail. Ça sera un moment très à propos pour le gouvernement de remettre ça sur la place publique et inviter toute la population, autant les employés, les collègues de travail, les personnes victimes, les employeurs, à se doter d'une politique. Nous, chez Illusion, on fait la promotion d'une politique contre le harcèlement, au canot aussi. Alors, à se doter d'une politique dans ce sens-là. Malheureusement, c'est le temps qu'on avait aujourd'hui. Ça passe très vite. On a fait 15 minutes. Alors, on pourra peut-être vous faire revenir pour un autre sujet là, qu'il va y avoir d'autres pressions politiques au niveau du harcèlement psychologique. Rendu long, on pourra recommuniquer avec vous avec grand plaisir.
Ce serait le fun qu'à l'automne, avec le front, on soit en campagne.
On le souhaite. Puis, on voudrait juste, en dernier mot, pour vous rappeler, on vous a dit tantôt, informez-vous, vous pouvez nous appeler, ça va nous faire plaisir. N'oubliez pas que c'est 90 jours le délai du dernier événement. On dit aussi dans la loi, puis on n'a peut-être pas pensé de vous le dire tout à l'heure, mais si vous déposez une plainte, ils vont vous demander d'en parler à l'employeur. Alors, faites-le aussi. Ayez une rencontre avec votre employeur pour lui parler du phénomène. Ça se peut que ce ne soit pas une rencontre concluante, mais vous aurez fait la démarche.
Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Illusion Emploi, 819-56. 9-99-93. Ça nous fera un plaisir. Merci beaucoup à nos deux invités, Charlie Richard et Marie-Josée Magnier du Cano Trois-Rivières. Merci à Manon de m'avoir accompagnée aujourd'hui. Et on vous retrouve en septembre prochain pour une prochaine année de la complète du travail. Merci.
Merci. Merci.